When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Toutes ces excuses qu'on peut se trouver, ah oui, mais tu vois là, moi j'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça, bah oui, mais c'est des excuses en fait. Si t'as vraiment envie, tu tentes quoi.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
La force, ça vient des moments difficiles, je pense. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de secret. Si tu montes pas ce que tu fais, il se passe rien pour toi. Je ne vaux pas moins bien, en fait. Et si je le sens, si c'est vraiment ce que je veux, c'est possible. C'est vraiment possible.
Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Il faut
Parler dans le micro.
Il faut parler dans le micro. Et puis, bah, sinon, c'est tout. Donc, bonjour Agathe Sorlet.
Bonjour. Oh non, j'ai rigolé. Comme une débile.
Premier truc que tu as fait, c'est... Okay, ce sera, on regardera au montage. Donc, bienvenue sur Nouvelle École.
Merci.
Donc, Agathe, tu es illustratrice.
C'est ça, exactement.
Et tu as fait une formation... Je sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs, je dis jamais ça.
C'est
le CV, je déroule le CV, mais t'as fait deux écoles et t'as fini au Gobelin.
C'est ça.
Et en fait, tu dessines depuis. Enfin, moi, j'ai vu tes œuvres principalement sur Instagram, mm-hmm. où t'es même très suivie maintenant. Je crois que tu t'es lancée il y a un peu plus de 2 ans.
C'est ça.
Où tu fais j'ai quand même un peu préparé.
Oui.
Où tu fais des choses en solo, dans un style assez reconnaissable, mm-hmm. mais aussi tu fais des choses avec ta sœur qui s'appelle Lorraine, mm-hmm. et avec laquelle tu dessines depuis assez longtemps, je crois.
Mm-hmm.
Et notamment, vous avez fait, parfois vous travaillez ensemble, vous avez fait une expo dans un...
Non, en fait, je te coupe là parce qu'on dessine pas ensemble à quatre mains, mais en tout cas, on va dire qu'on fait des projets ensemble, mais c'est plus en parallèle que... En fait, on dessine jamais sur la même feuille ensemble, en fait. Mais en fait, on est très proches et en fait, c'est comme si c'était un peu ma collaboratrice, tu vois.
Vous avez commencé ensemble à dessiner ?
Oui, toute petite, tu vois.
Toi, t'as commencé à quel âge à dessiner ?
J'ai commencé, franchement, je sais pas, c'est débile, je peux pas savoir parce que ça fait très longtemps. Je pense que j'irais 5 ans, mais je sais pas.
Quand t'avais 5 ans ?
Ouais, je pense que quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à dessiner.
Et qu'est-ce qui fait que que c'est devenu un truc un peu sérieux en fait ?
Bah, je pense que en fait c'était un moyen d'expression vachement intéressant et en fait comme j'avais beaucoup de mal à faire plein d'autres choses quand j'étais petite, enfin j'avais du mal à m'exprimer, j'étais très timide avant.
Tu veux dire que t'avais du mal à parler par exemple ?
J'avais du mal à parler aux autres j'étais une très mauvaise élève, j'étais un peu considérée comme je n'étais pas très populaire en tout cas. Et en fait le dessin c'est une manière aussi de on va dire, de se faire accepter. Et par exemple, quand je dessinais un petit truc, tout le monde te disait « Ah, c'est trop cool !» et tout. Et du coup, j'ai continué parce que j'aimais beaucoup ça et que c'était une manière de communiquer avec le monde, en fait, qui était assez intéressante. Et comme j'avais plus de mal à communiquer par les mots, c'est pour ça que les interviews me stressent, d'ailleurs. C'est que je préfère largement dessiner plutôt que parler.
T'inquiète, hein, c'est vraiment... on est sûr, c'est pas vraiment une interview, de toute façon.
Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai peur
Il y a que 2 millions de personnes qui écoutent les vidéos.
4 millions. Ok, non, mais voilà. Du coup, je préfère dessiner que...
Tu as commencé un peu comme parce que... En fait, est-ce que c'est le fait de t'être rendu compte que les gens validaient un peu ça, qui t'a donné envie de continuer d'en faire plus?
Ouais, je pense que c'est ça, mais en fait, à la base, avant que je me rende compte que c'était validé par les autres, c'était vraiment plus vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été vachement attirée par le dessin, en fait. Dès que j'étais petite, je voyais quelque chose qui était dessiné, je le regardais,
Il y avait un rapport avec ce que faisaient tes parents ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, mais du coup, y avait quand même des BD à la maison. Il y avait j'ai un peu honte de dire ça, mais je vais quand même le dire parce que c'est très important.
Il faut tout dire.
Parce qu'en fait, avec ma sœur, parce qu'en fait, du coup, on a vachement grandi ensemble là-dedans. Moi, je suis la reine pour passer du coq à l'âne. Donc en fait,
on fait souvent ça sur Nouvelle École, t'inquiète pas, vraiment.
Du coup, en fait, je vais penser à un truc et puis tout de suite, je vais penser à un autre truc et puis.
Donc t'inquiète, mon boulot, c'est d'essayer de me souvenir de ce que t'as dit. J'oublie. En général, j'oublie. En général, je dis attends, je voulais absolument parler de ça, mais non, je me souviens pas. Okay. Mais donc t'inquiète pas.
Et du coup, avec ma sœur, on était fans de Titeuf.
Moi aussi, j'étais fan de Titeuf. Oui. C'est la première fois où je me suis vraiment. Tordu de rire devant une BD.
Ah, c'est vrai.
Bah ouais.
C'est trop bien.
Je sais plus lequel j'avais, mais quand j'ai découvert le premier tome que j'ai eu entre les mains, j'ai tout acheté. Mm-hmm. Et il y avait le premier tome qui était en noir et blanc.
Ah oui, je m'en rappelais même pas.
Et c'était le plus marrant de tous. Et voilà, petite intervention. Donc vas-y, continue. T'étais fan de Titeuf.
Ouais, j'étais fan de Titeuf. Enfin, je sais pas, ça me faisait trop rire aussi, quoi. Et du coup, en fait, avec ma sœur, on a écrit une lettre à Zep. On était toutes petites. Et en fait, on voulait savoir sa technique, en fait, pour dessiner. Et en fait, je pense que c'est vraiment le point un peu de, il y a eu un avant, un après, la lettre. Parce que du coup, on a reçu, en fait, il nous a envoyé un petit fascicule.
Attends, vous l'avez envoyé où, la lettre, du coup?
Une adresse, je sais pas, on a trouvé sur Internet.
Du genre Glénat ou un truc comme ça?
Je me rappelle plus, j'étais vraiment petite. Je me rappelle plus où je l'ai envoyé. En tout cas, il l'a reçu. Après, j'espère que c'est lui qui a vraiment répondu. je croise les doigts, mais peut-être pas.
Tu l'as gardé, la lettre, ou pas?
Oui. Et d'ailleurs, c'est ma sœur qui l'a. Elle l'a accrochée à son mur avec la dédicace. Et du coup, en fait, dans la lettre, c'est pas vraiment une lettre écrite. Bonjour à Agathe et Lorraine. C'est plus, en fait, ils nous ont envoyé un petit dessin dédicacé. J'ai les cheveux dans les. Désolée. en fait, il nous expliquait sa technique, en fait, pour dessiner. Et en fait, nous, on connaissait pas, on n'avait jamais pris de cours de dessin, on était toutes petites. Et en fait, il me disait qu'il fallait commencer au crayon et ensuite repasser au feutre. Et ensuite, on pouvait gommer les traits au crayon. Et c'était genre la révolution. Pour nous deux, on était, ouais, mais c'est incroyable comme technique et tout. Et du coup, on a commencé à pratiquer cette technique et ça a donné on était ultra motivés par ça. On a commencé à faire des BD.
Vous aviez quel âge quand vous avez envoyé cette lettre? C'est marrant, vous avez un peu fait ce que je fais maintenant, en fait.
Ouais.
J'invite les gens, je leur dis, mais comment tu fais pour...
Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ça commence, je pense que c'est un bon début, quoi. C'est bien pour commencer. Donc, de s'inspirer de gens, voilà. Et, je trouve pas mon vocabulaire. Et donc, du coup, après, on a commencé à faire plein de BD, en fait. Et je pense que pour répondre à ta question. Mon dieu. Pour répondre à ta question, je pense que c'était vers, j'ai plus 12 ans, je dirais ça un peu au hasard parce que j'ai pas trop de notion d'espace-temps.
OK.
Je vis un peu dans
Et avec ta sœur, vous êtes jumelles, c'est ça?
Ouais, jumelles. D'accord. Jumelles. Voilà.
Donc vous avez tout fait ensemble, quoi.
Bah franchement ouais, enfin pas mal de choses, pas tout heureusement parce que sinon ça ferait un peu peur quand même. Mais je pense qu'on a, c'est quelque chose d'important dans notre évolution et je pense que ça nous a permis vraiment d'aller encore plus loin, en fait.
Vous aviez les mêmes centres d'intérêt, je dirais, mis à part la BD? Ou c'était juste le point de convergence?
Non, il y avait des petites, il y avait des trucs qui, en fait, je me rappelle notamment, Lorraine était fan d'un groupe japonais, mais complètement fan d'un groupe japonais, mais un peu kawaii, tu vois.
Un groupe de musique, kawaii, c'est quoi? C'est avec des filles, c'est ça?
Non, c'était avec des mecs en mode kawaii, avec des mèches, super cute, chouchou et tout. Et du coup, en fait, je me rappelle qu'elle était complètement fan de ça. Et c'était un peu la première fois que j'étais choquée parce que moi, j'aimais pas du tout et je comprenais pas pourquoi elle était fan. Donc, elle a même été à des concerts. Donc, il y a quand même des points où on est, heureusement, parce que sinon, vraiment, ça ferait peur.
Parce que vous êtes genre meilleur pote?
Un peu quand même. Enfin, je peux pas vraiment dire ça parce que c'est ma sœur, mais en tout cas, c'est la personne qui est la plus proche de moi.
Et du coup, vous avez commencé, tu dis ce truc avec Zep, ça a été un genre de déclic.
C'est ça.
Ça a fait quoi ensuite, en fait?
Bah, ensuite, en fait, ça a pris plus de, un déclic dans le sens où ça est devenu un peu plus sérieux, en fait. je sais pas, on s'est plus professionnalisé entre grosses guillemets.
Est-ce que le fait d'avoir reçu une réponse de quelqu'un que vous admiriez, dont vous aimiez le travail, ça vous a ça a changé quelque chose, ou est-ce que vous vous êtes dit en fait on peut accéder à ça, ou est-ce que ça a réduit la distance?
Bah ouais, un peu. On était super choqués de recevoir la lettre, et peut-être qu'il y a de ça. Enfin, j'ai pas trop analysé en fait. Je sais juste que c'est vraiment un point déclic quoi.
Et à ce moment-là, tu te disais déjà, je veux faire une école d'art ou je veux travailler dans l'art?
Ah oui, toujours, depuis le début en fait.
T'as jamais envisagé autre chose?
Ouais, j'ai toujours eu le même chemin dans ma tête, jamais un autre.
Et du coup, t'as réussi les concours. En fait, tout s'est bien passé quoi, non?
Ah non, tout s'est pas bien passé. Sinon, ça serait trop facile.
Qu'est-ce qui s'est pas bien passé alors?
Bah, j'ai eu pas mal de désillusions dans ma... En fait, en gros, donc après le brevet au collège, on peut choisir entre une filière générale, 99% choisissent ça, ou un truc technique. Et du coup, il y avait une école technique que je voulais faire et que je me suis dit, il faut absolument que je m'inscrive à ça après le collège. C'était une école d'art appliqué à Montreuil. Et du coup, j'étais sûre d'être prise parce que j'avais 20 de moyenne en art plastique. Parce que j'étais genre...
Wow. Moi, j'avais 4 de moyenne. Ouais, j'étais genre, j'avais jamais de crayon, j'oubliais toujours mes crayons de couleur.
Ah oui.
Et j'étais toujours le mec qui disait en cours d'art plastique, excuse-moi, t'as pas un crayon de couleur?
Ah oui.
Et tu sais, du coup, j'avais toujours les crayons de couleur pourris, genre, tu sais, les couleurs moches que personne voulait, genre le rose et tout, tu vois. Donc, forcément, je pouvais faire que des trucs nuls.
L'excuse, quoi.
Voilà. C'était pas de ma faute.
Ouais, bien sûr.
Donc, ouais, pardon. Mais...
du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc, ouais, 20 de moyenne, mais en même temps, parce que je voulais absolument faire ça, je me donnais à 100% dans le cours, j'étais là comme une. Alors qu'à tous les autres cours mathématiques, je m'en foutais, je l'écoutais, j'avais pas le prof, j'avais des.
T'avais des mauvaises moyennes dans les autres matières?
Non, ça allait, j'avais des moyennes correctes, mais vraiment, c'était plutôt moyen, entre 12 et 13, je pense.
Si tes parents, ils faisaient des choses qui avaient rien à voir, est-ce qu'ils voyaient ça d'un bon œil, le fait que tu veuilles absolument faire des professions artistiques ou une carrière artistique?
Je pense qu'ils se rendaient pas compte, ils s'en foutaient.
Ok.
Et du coup. et donc vas-y, j'arrive pas à finir mes.
Ouais, parce que j'arrête pas d'interrompre.
Non,
mais c'est
ça. Moi dans ma tête, c'est pas toi, hein, je te jure. Et du coup, et donc voilà. Après le brevet, donc j'ai postulé pour aller à cette fameuse école technique en art, en fait. Enfin, j'ai pas été prise. J'ai pas été prise. C'est la déception, mais c'était horrible, horrible comme moment.
Pourquoi t'as pas été prise?
Je sais pas. Donc en gros, je t'explique. Donc je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que je. C'est un peu flou, mais en même temps, c'est marquant comme souvenir. J'étais un peu au milieu de tous mes copains. Mes copains d'école, enfin mes copains entre guillemets, c'était pas tous mes copains, j'aimais pas tout le monde. Et du coup, heureusement, j'ai pas comme tout le monde. Et du coup, on était, j'étais dans le hall d'entrée de mon collège. Et là, je sais pas, c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert que j'ai pas été prise. Et c'était un moment horrible parce que tout le monde me regardait et je pleurais en fait. Et tout le monde me regardait un peu genre. Et j'ai eu un moment, je pense que c'est aussi un moment important dans ma vie c'est parce que j'ai eu un espèce de, je pense que c'est à ce moment-là, j'ai eu la rage, j'avais tellement le seum, je fais, de toute façon, je vais quand même y arriver. Quoi qu'il se passe, je vais quand même y arriver. C'est de voir ces gens qui me regardaient et qui disaient, ah oui, la pauvre, quoi, pauvre fille.
Ah, tu l'as vraiment ressenti comme ça?
Ouais, ouais. Je me sentais trop mal, j'ai eu la rage, je me sentais triste et c'était injuste parce que du coup, ma sœur était prise et pas moi.
Ah, ta sœur était prise dans cette école?
C'est ça. Parce qu'on avait bien sûr postulé dans la même.
Et comment elle gérait le fait que t'es, enfin, comment t'as géré avec elle?
Bah non, moi j'étais très contente pour elle, j'avais pas de jalousie, j'étais contente qu'elle soit prise, mais après je comprenais pas que moi je sois pas prise, sachant qu'on avait presque les mêmes notes, qu'on avait le même bulletin presque, sachant que j'avais un point de plus en art plastique qu'elle. Ça je me rappelle. Et du coup j'ai été voir la proviseure.
De truc qui t'avait pas pris?
C'est ça, toute seule, comme une grande, que j'ai été voir. Et je tremblais, bien sûr, j'étais super.
T'avais genre 14 ans, en fait.
Ouais, mais 14 ans, finalement, c'est pas si jeune, mais quand je me rappelle de moi, j'étais un bébé, en fait.
Ouais, 14 ans, plutôt un bébé, ouais.
Plutôt un bébé. Et du coup, j'y ai été, mais j'en menais pas large, en fait, parce que j'étais très triste de pas être prise.
Donc, tu t'es dit, je suis pas prise, mais ça va pas se passer comme ça. Ouais. Je vais aller voir la proviseur.
C'est ça.
Ah ouais, excellent. Bah, t'avais quand même du courage.
Ah, mais c'était pas possible autre chose pour moi. C'était pas possible. Donc, j'ai été voir la proviseur, mais en même temps, j'avais ça, mais en même temps, j'étais très fébrile. J'avais pas un fort caractère. J'étais très timide. Donc, je voulais que ça se passe pas comme ça, mais en même temps, j'étais très timide et triste et toute tremblante. Du coup, j'ai été voir la proviseure et du coup j'ai tout de suite pleuré en fait parce que j'ai pas réussi.
Ah, c'était une stratégie où tu te disais je vais non
pas du tout, stratégie non. Parce qu'en fait j'étais trop émue en fait, j'arrivais pas, parce qu'en fait juste le fait de lui dire que j'étais pas prise, ça m'a fait pleurer.
Et du coup ça s'est passé comment?
Et puis là c'était alors encore un moment horrible dans ma vie qui m'a marquée. Elle m'a dit mais mademoiselle, vous pourrez faire ça le dimanche pour vos loisirs, pendant vos loisirs. Là j'ai regardé et pour moi c'était pas possible en fait. Je pouvais plus parler parce que j'étais trop en train de pleurer, j'étais trop mal, et en plus elle m'a dit ça, et surtout qu'en plus elle m'écoutait même pas, alors que elle aurait pu écouter le fait que c'était pas logique parce que j'avais des bonnes notes en art plastique, etc. Elle m'a prise un peu pour une petite fille comme ça, voilà, et puis tu feras ça le dimanche. Enfin, ça m'a traumatisée.
Alors après, t'en étais où, alors, une fois que ça avait raté?
Et du coup, j'ai été en général. J'ai fait ES.
Mais c'est quand même hyper courageux, parce que je pensais que ton histoire allait bien se finir et que t'allais me dire.
Non.
Et du coup, elle m'a dit, mais rentrez, mademoiselle, on s'est trompé quand je vois votre motivation. Parce que tu sais, t'es genre le bon storytelling qui finit bien. Mm-hmm. Parce que, en fait, moi, j'ai entendu énormément d'histoires comme ça. Et je pense que quand même, dans la vie, finalement, ça marche quand même relativement souvent, ce genre de choses. Et tout est négociable un peu. Alors parfois, ça fonctionne pas, tu vois. Mais j'ai entendu tellement d'histoires. Déjà, j'ai fait deux écoles sur concours. Mmh. Et dans les deux écoles, j'ai entendu des histoires de mecs qui avaient genre pas eu le concours, mais qui étaient arrivés, qui avaient négocié, qui avaient réussi à rentrer. Ou alors des types qui devaient redoubler, mais qui vraiment... Ou alors aurait dû être viré depuis des années parce qu'ils faisaient vraiment rien. Mais en fait, ils arrivaient toujours à négocier. Et ma mère m'a beaucoup appris ça aussi, parce que ma mère, c'était vraiment la championne du monde de ça s'est pas passé comme je veux.
Ah oui.
Ah bon, bah alors attends. Et une fois, allez, je sais pas si j'ai le droit de raconter cette histoire, mais je vais quand même la raconter. pour le bac de l'oral de français du bac. En fait, je me suis trompé de jour.
Oh, mais non. Ouais. Mais pourquoi?
En fait, j'étais en première. Sachant que j'avais redoublé ma première S. Et donc, j'étais parti dans un autre lycée faire ma deuxième première parce que ils voulaient plus trop que je reste dans le lycée d'avant. Bref, c'était une période moins glorieuse de ma vie. Je révisais mon oral de français. Et un jour, je me lève et je me dis, bon, bah, écoute, pour demain, là, c'est bon, il reste toute une journée pour préparer, tu vois. Et je prépare et tout. Puis à un moment, j'ai espèce de doute. Mais tu sais, genre vraiment, je sens mon cœur qui tombe tout au fond, quoi. Et je vais voir et je vois que le bac, c'est genre maintenant, tu vois.
Oh non!
Et je vais voir ma mère et je dis, ouais, maman. Elle me dit, bah alors, t'es prêt pour demain et tout? Et je dis, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai un truc à te dire. En fait, le bac, c'est aujourd'hui. Et ma mère, trop stylée, qui prend son téléphone, qui appelle le rectorat ou je sais pas quoi, qui dit, ouais, mon fils, il a eu une crise d'asthme.
Ah oui, ah, trop bien.
Il va mourir. Voilà, on vous filera une attestation. Franchement, j'espère que c'est pas, qu'on va pas tout seul en prison après que j'ai dit ça. Et du coup, ils m'ont fait repasser le bac en session de rattrapage, tu vois, en septembre ou en novembre, tu vois. Mais enfin, il y a toujours des trucs qui se négocient, mais genre même les trucs où tu te dis c'est pas possible, c'est bon, j'ai raté le bac, je vais redoubler, enfin, tu vois.
Mais je pense que dans ton histoire, je pense que le fait, si j'avais été peut-être plus sûre de moi à ce moment-là, ou si j'avais eu un adulte qui m'avait accompagné, je pense que ça aurait changé. Je pense que c'est négociable quand t'es, quand,
parce que quand tu changerais quoi si tu le refaisais? Tu le ferais comment différemment?
J'appellerais un adulte, je sais pas.
Oh, mais toi, t'es adulte maintenant, donc si tu devais refaire la même situation.
Ouais, mais. C'est-à-dire que j'ai mon âge.
Voilà, t'as ton âge.
Ah,
simulation.
Je suis pas. Ouais, mais du coup, c'est difficile. Enfin, du coup, je suis pas prise à cette école, mais j'ai mon âge.
Ouais, ou une situation du même genre, quoi.
Je pense que j'essaierai d'y aller, quoi. J'essaierai d'y aller. Mais en fait, moi, j'ai un problème, c'est que quand quelque chose me tient vraiment à cœur, j'ai du mal. Enfin, je suis très sensible, donc je pleure et. En fait, j'ai du mal à être un peu autoritaire et à dire alors c'est comme ça et comme si. Et du coup, c'est difficile, quoi. Mais je pense que aujourd'hui, ça irait mieux que quand même quand j'avais 14 ans. Mais voilà.
Mais parfois, pleurer, c'est une assez bonne stratégie. Hein. Enfin,
peut-être.
C'est pas très contrôler. Un autre truc qui marche bien, je trouve, c'est d'insister finalement, mais le côté insister poliment. Mm-hmm. Finalement, tous les gens qui sont passés sur Nouvelle École sont passés grâce à un genre de harcèlement permanent, mais tu sais, sans jamais s'énerver, ni manquer de respect, ni rien, mais juste, tu sais, les gens, ils reçoivent un mail dans leur boîte mail tous les lundis, tu sais, depuis genre 6 mois, au bout d'un moment, ils font, bon, c'est qui ce mec?
Moi, j'y réponds.
Tu vois? Et, bref, petite parenthèse, et donc ensuite, t'es allé en filière générale, et là, tu te disais quoi?
Je me sentais mal parce que j'aimais pas ce que je faisais, en fait. Après, c'est une filière générale, donc ça allait, c'était pas comme tout le monde, en fait. Tout le monde faisait ça, mais je sais pas, je sentais que c'était pas ma place. Et, surtout, j'ai fait ES parce que j'étais, du coup, très nulle en maths, assez nulle en français. Du coup, je choisis l'option du milieu, mais qui me convenait pas non plus parce que, j'étais assez éloignée de ça.
Et tu dessinais du coup le dimanche comme t'avais dit?
Non, je dessinais en cours tout le temps. C'est ça, en fait, je dessinais pas le dimanche, je dessinais tout le temps en cours. Je faisais des je pense que ce qui m'a vachement, ça m'a permis d'évoluer un peu mon style. Et en fait, j'ai vachement dessiné pour mes copines, en fait. Tu sais, on envoie toujours des mots quand on est au lycée. Enfin, je sais pas, non.
Toujours? Ouais, peut-être.
Non,
on va dire que oui.
Okay. Moi, je faisais tout le temps ça avec mes copines, on s'envoyait des mots.
Ok, non. Ouais, c'est okay. Peut-être.
Tu sais, des petits mots pliés que tu mets dans la trousse, tu vois.
Ouais. Non. Bah, peut-être, ouais.
Ok.
Disons que. Non, mais c'est peut-être que c'est un truc de fille, je sais pas.
Ouais, bon. Truc de fille. Et du coup, je faisais au lieu d'écrire, parce que souvent, on écrit des petits mots, moi, je dessinais. Et j'envoyais ça à mes copines qui se marraient, en fait. Je faisais des dessins du prof, j'inventais des histoires, des trucs un peu comiques. Et en fait, je faisais marrer mes copines comme ça. Et une majeure partie des cours, je faisais ça. Plutôt que d'écouter les...
Et ça te créait pas de problème?
Ça allait. Parce que j'arrivais quand même à parfois être sérieuse. Donc en fait, je choisissais mes moments. Voilà.
Comment tu choisissais tes moments?
Je sais pas, quand il y avait un petit moment de latence. le prof disait des choses qui étaient inintéressantes ou je ne sais quoi, ou je sais pas.
Et tu te disais toujours, quoi qu'il arrive, quand je sors du bac, je vais faire une formation.
Ah oui, bien sûr. Alors j'étais remontée comme un coucou, quoi.
Et là, t'étais différente, du coup, parce que du coup, t'as passé des concours pour entrer dans une école qui s'appelle.
LISA.
Voilà, LISA, ouais. C'est ça. C'est l'acronyme qui veut dire quoi déjà? Institut.
L'Institut, je sais plus.
Des arts appliqués. Supérieur des arts appliqués, voilà, c'est ça. et là, du coup, pour le concours, t'étais genre ultra préparé, ultra.
En fait, je pense que j'ai tellement eu de bâtons dans les roues que, en fait, ça m'a donné encore plus de force, en fait. Ça m'a donné vraiment un peu la rage, en fait. À partir du moment, justement, où tout le monde me regardait pleurer, là, ça m'a vraiment donné la rage et vraiment l'envie d'y arriver. Mais je le fais rapidement parce que j'ai l'impression qu'on va parler que de l'école. Parce que en gros, en fait,
T'as l'impression qu'on va parler que de l'école?
Non, parce que du coup, c'est long ce moment de. En fait, ce moment où j'y arrive pas, il est long avant que j'y arrive.
Mais c'est bien, c'est intéressant, non?
Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant.
Bah ouais, c'est plus intéressant même. En fait, les parties difficiles sont souvent plus intéressantes que les parties où les gens tout leur réussissent.
Ouais,
tu sais.
Ouais, alors oui, après, non. Non, oui, c'est vrai, t'as raison.
Et après, j'ai fait 10 millions de dollars.
Ouais, et après, 10 millions de vues. Et du coup, et en fait, je suis pas après le bac, j'ai eu mon bac, un peu de justesse, je crois, mention assez bien. Tu peux avoir une mana, faire une mana qui une remise à niveau.
Ouais.
Pour ensuite pouvoir avoir un BTS, faire un BTS en graphique design. Putain, j'arrive pas à parler, j'ai honte. Donc en gros, je voulais faire une remise à niveau pour rattraper le retard, parce qu'en fait, quand tu fais un bac général. Et ben du coup faut que tu fasses une mana pour ensuite intégrer un BTS, voilà. Et un BTS en graphisme. et en fait bien sûr j'ai pas été prise. Facile, parce qu'en fait c'est sur dossier, donc en fait comme j'avais des notes moyennes, ils s'en foutent de si t'es passionné ou si t'as envie de dessiner, en fait c'est juste sur dossier. Juste si t'as une bonne moyenne.
Il y a aucun entretien avec toi.
Il n'y a pas de.
Ce qui paraît pas spécialement smart comme processus de recrutement.
Exactement, un peu débile. Et du coup, j'ai pas été prise. Et là, encore une fois, horrible, ma meilleure amie a été prise. C'est toujours des trucs. Les gens sont pris et pas moi.
Oh là là.
Bref. Et donc, du coup, là, c'était.
Ah là, t'en étais où, là, psychologiquement?
J'étais mal, mais j'étais encore. J'avais encore envie d'y arriver, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais y arriver, je vais finir par y arriver.
Qu'est-ce qui faisait, à ton avis, que tu lâchais pas l'affaire?
Bah, c'est parce que pour moi, c'était trop évident. C'était beaucoup trop évident, le dessin, en fait. C'était trop évident de faire ça, de faire ça professionnellement. Je voyais pas d'autre option. Et puis, j'y réfléchissais même pas. Je disais même pas, ah, tiens, je vais peut-être faire ça. C'était même pas conscientisé. C'était quelque chose de très naturel, quoi.
En fait, tu voyais ça juste comme des jours de ralentissement. Ouais. Des choses qui te ralentissaient vers ton objectif, mais tu te voyais pas changer d'objectif.
Non, jamais. Mais je me disais pas ça comme ça, parce que je me le disais pas dans ma tête, c'était très naturel, c'est assez fait comme ça, quoi.
Ouais, là on rationalise a posteriori, mais c'est le but de ce podcast, on fait que ça. Tout expliquer des choses que tu n'as jamais théorisées, en vrai, tu sais. Oui, alors je m'étais dit.
Oui,
très conscient.
Oui, alors que quand j'avais 10 ans, je m'étais dit que.
Ouais,
là, c'est ça, une théorie de malade, mais en fait pas du tout.
Et donc, alors après ça,
là, l'enfer. Et là, je suis contente de pouvoir. Certaines personnes puissent m'écouter parce que je vais mettre en garde. En gros, faute de mieux, j'ai été à la fac art plastique à Sorbonne. Et là, c'était l'enfer. J'ai vécu l'enfer parce que c'était tout, mais c'était l'inverse de ce que je voulais. C'est-à-dire que c'était des gens qui faisaient des performances étranges. C'était tous des gens un peu paumés, drogués. En fait, moi, j'étais tellement pas comme ça. J'avais pas du tout envie d'être dans ce milieu de gens un peu perdus, un peu paumés, parce que, enfin, et puis même les cours, en fait, c'était que des théories un peu fumeuses et tout le monde faisait des trucs, des performances et, bon, bref, peut-être que je suis un peu.
Comment t'expliques que ça ait ramené ces gens à cet endroit?
Parce qu'en fait, tous les gens qui étaient là, en fait, c'était des gens qui avaient tenté les grandes écoles d'art et qui avaient pas été pris, en fait. Ou la Mana, ou comme moi, ou, en fait, c'était des gens qui étaient un peu, tout le monde, en fait, la première année, quand je suis arrivée, je me suis fait des amis. Et tout le monde disait autour de moi, mes potes me disaient, tout le monde était dans la même atmosphère. Ils disaient tous, je vais arrêter, je vais trouver autre chose. Tout le monde voulait arrêter, en fait. Personne ne voulait continuer jusqu'au master.
Tout le monde voulait arrêter la fac d'art plastique.
Oui, c'est ça, la fac d'art plastique.
C'est un mauvais signe.
Oui, mais en fait, j'ai envie de nuancer mes propos parce que j'ai peur que les gens prennent mal. Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer la fac d'art plastique.
Ouais, mais globalement, si, ce que je me dis maintenant, c'est que si tu fais attention à blesser personne, tu peux plus rien dire,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, parfois, je suis un peu comme ça et j'ai peur de.
Non, mais c'est pas. Les gens qui écoutent Nouvelle École sont hyper sympas.
Okay.
Sauf une personne. Mais...
Ah, c'est qui?
Non, c'est pas.
C'est
vrai.
Toi.
C'est moi, ouais, c'est clair.
Et du coup, et voilà. Et en fait, j'avais 19 ans et je pense que c'était l'une des périodes les plus difficiles dans ma vie parce que du coup, j'avais eu quand même pas mal de bâtons dans les roues et là c'était un peu j'étais un peu quand même fatiguée, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, qu'est-ce que je vais faire de moi, comment je vais y arriver, quoi.
À ce moment-là, t'étais un peu déprimée?
Ouais, non, c'était le moment où j'étais un peu déprimée. Ouais, j'étais un peu déprimée, j'avais perdu un peu l'énergie d'espoir, quoi. J'ai eu une période un peu, peut-être quelques mois, où quand j'étais à la fac, ça a duré, je pense que je me suis cassée au bout de 6 mois, je crois. Je me suis cassée.
T'as quitté la fac?
J'ai plus retourné.
Tu savais, tu l'as quitté parce que t'en pouvais plus?
Ouais, j'en pouvais plus et je voulais trouver autre chose.
Et tu savais, hein, t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire à la place de la fac?
En fait, quand j'ai quitté la fac, c'était encore flou je savais exactement ce que je voulais. Je voulais faire une école de graphisme, en fait. Je voulais faire une école de graphisme. Je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas comment, parce que du coup, c'était un peu difficile d'intégrer une Mana. C'était même impossible maintenant, dans mon cas, là, désespéré, à 6 mois de fac. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est super dur. Et en même temps, c'était flou parce que je savais pas vraiment à quelle école postuler, etc. J'avais juste envie de parler de ça. Je sais pas pourquoi j'ai absolument envie de parler de ça.
Parlons de ça. Non, mais on peut parler de ce qu'on veut vraiment.
Mais en fait, avant de finir l'histoire, pour revenir à la fac art plastique, je veux juste parler de ça parce que c'est important. Qu'en fait, au début, c'est pour ça que je suis partie au bout de 6 mois, parce que peut-être que j'aurais réussi si j'avais gardé mes amis complices, où on me disait, ah oui, on se regardait en cours quand il y avait des choses bizarres et qu'il y avait cette complicité qui disait, ah non, ils sont fous et moi je suis normale. Je serais peut-être restée plus longtemps, mais en fait, petit à petit, je voyais les amis autour de moi, totalement rentrer dans le truc, quoi. Et moi, j'étais tout le temps en cours, on passait des vidéos, mais vraiment, après, voilà, chacun ses trucs. En tout cas, moi, c'est pas mon truc, des vidéos de performance trop bizarres où les gens sont à moitié nus, ils ont des masques de troll, et ça me met un peu mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire,
ouais.
Et du coup, j'avais ces regards d'amis qui me qui me disait non bah oui Agathe t'inquiète on se regardait un peu genre ah oui c'est un peu bizarre et en fait petit à petit en fait il y avait plus ces regards et en fait je me suis sentie vraiment seule et en fait c'est pour ça que ça m'a rendue triste parce que je me sentais
mais t'étais pas au bon endroit quoi.
Seule au monde, pas au bon endroit. Et donc voilà, je suis partie.
Il y a un truc qui t'a fait partir ? Il y a un moment où tu t'es dit, bon, allez, je pars ou c'est...
Je réfléchis, je suis pas sûre. Je pense que c'était un peu petit à petit. Je pense que, en fait, ça s'est fait un peu, genre, je venais presque plus en cours et à un moment, je suis plus venue, quoi. Tu vois. Voilà. Et donc nous allons passer à la période peut-être un peu plus.
Passons à la suite du CV. Alors, c'est marrant, t'as vraiment pris chronologiquement,
mais grave.
Quoi. Ouais, mais c'est bien.
Ouais, j'avoue. Je sais pas. Et donc,
parce que ce moment-là, t'es sortie, tu savais pas ce que tu allais faire en quelque sorte.
Ouais, non, bah, je savais toujours ce que je voulais faire, mais je savais pas comment le faire.
Ok.
C'est différent. Et du coup. T'as fait quoi du coup? Et donc, du coup, je sais plus comment j'ai découvert cette école, Lisa. Je sais plus, je me baladais. Je crois que c'était. Je me baladais sur Internet et j'ai vu un shooting photo d'élèves qui avait l'air. Ça avait l'air trop cool, tu vois. Ça devait être un truc comme ça, tu vois. Et je me suis dit, ah tiens, Lisa, non, ça a l'air cool. Donc du coup bah j'ai postulé à cette école et en fait et ben je voulais absolument pas faire la remise à niveau parce qu'en fait non il y a pas une remise à niveau mais il y a une prépa et je voulais pas faire la prépa, je voulais rentrer directement en première année parce que je me disais j'ai déjà loupé un an, j'ai pas envie de
t'avais l'impression d'être en retard.
Ouais, j'avais envie de d'y aller direct quoi. Et du coup bah j'ai été prise en première année.
Comment ça se fait?
Parce que là cette fois-ci la première fois depuis le début de ma scolarité en fait il y a quelqu'un qui a, j'ai eu un vrai entretien, j'ai montré mes dessins.
Ah donc c'était la première fois que t'avais
ouais,
un entretien.
C'est ça, première fois.
Et du coup t'as pu comment t'expliques que ça a été comment t'expliques que ça a été déterminant?
Bah parce que j'avais vraiment préparé, j'avais tout donné en fait, j'avais mis tous mes dessins dans un portfolio magnifique, super bien et en fait il a pu, je pense que j'étais très motivée donc il l'a vu tu vois, c'était le directeur. Il l'a senti et du coup il m'a dit bah bingo t'es prise en première année, voilà.
Ouais, parce qu'en fait c'est compliqué de jauger de la motivation des gens si tu les vois pas en vrai parfois quoi. Ouais. En plus il y a des gens qui ont mais c'est compliqué parce que c'est difficile de construire un système d'évaluation qui soit pas biaisé, tu vois. Parce qu'il y a aussi le syndrome de tu fais des entretiens et t'as des gens qui arrivent en entretien mais qui se décomposent, tu vois. Ou t'as des jurys qui sont pas sympas, tu vois, aussi. T'as des jurys qui vont bâcher les élèves ou qui... Moi, j'étais tombé sur un... j'avais passé le concours de l'EM Lyon, qui est une école de commerce, et j'étais vraiment tombé sur Good Cop, Bad Cop, quoi. Là, j'étais là, c'était trop bizarre. Genre, il y avait un des mecs qui me démontait, et l'autre qui était là, non, mais on t'aime bien, tout, et j'avais complètement...
C'était déstabilisant, du coup.
Ouais, c'était super déstabilisant. Et j'avais vachement bien réussi tous mes autres concours, tu vois. Mais j'avais raté ça.
Ah oui, à cause de ça.
Ouais, bah non, peut-être que les mecs me trouvaient pas assez bon, tu vois, mais il y avait un côté, j'avais pas non plus l'impression d'être dans des dispositions normales, tu vois, c'était comme si on mettait une pression supplémentaire que t'es pas requise, tu vois.
Ouais.
Mais c'est intéressant dans ton cas que à partir du moment où on t'a donné ta chance un peu en présentiel, t'es réussi à passer, ouais.
Bah après je pense que c'est aussi il y a beaucoup d'aléatoires hein. Ça dépend de sur qui tu tombes, je pense que c'est un peu de chance et c'est beaucoup de, enfin je pense que j'ai eu de la chance quoi aussi quoi. Je suis tombée sur une personne qui aimait bien aussi ce que je faisais, qui a senti que j'étais motivée. Et comme tu dis, il y a parfois tu passes des entretiens, tu tombes sur des mecs mal lunés, ils sont mal réveillés, ils ont pas dormi.
Enfin là, si c'est le directeur, il y a quand même peu de ou alors vraiment t'es dans une mauvaise école quoi. Normalement le directeur il est concerné, non, j'imagine.
Non mais c'est soit c'est sûr après bon. Ouais. Après je sais pas, il aurait pu aussi être dans un mauvais jour. Je sais pas.
Et à partir de là, ça a changé un truc dans ta tête ou pas?
Bah à partir de là, bah du coup, je me suis vraiment j'ai commencé à vraiment apprendre ce que je voulais en fait, bah tous les logiciels à la suite Adobe, j'avais envie de faire des choses concrètes en fait, j'avais envie de...
T'avais pas commencé à le faire avant d'être dans l'école?
Non.
Tu penses que t'aurais pu ou pas?
J'aurais pu. Clairement, j'aurais pu mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait du tout. J'ai juste, enfin, avant cette école, je faisais tous mes dessins à l'aquarelle, au crayon à papier, etc. Et puis là, en fait, ça m'a donné un aspect beaucoup plus digital.
C'est le pire mot.
C'est horrible. Ah non, arrête. Digital. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc après les gobelins. Donc là, c'est l'apothéose de.
Mais là, il fallait repasser un concours, non?
Ouais.
Parce que les gobelins, c'est genre la meilleure école.
Bah, vif. Hein.
Non, mais c'est pas pour moi.
Non. C'est vraiment une très bonne école. Parce qu'il y a des écoles qui jouent sur leur réputation, justement, d'être des bonnes écoles. Mais les Gobelins, c'est une très bonne école.
Tu veux dire que t'apprends beaucoup à l'intérieur?
Ouais, t'apprends vraiment, en fait. C'est exactement ce qu'il me fallait, en fait. C'est vraiment des professionnels qui arrivent et qui, c'est pas des profs, qui connaissent pas la réalité, en fait. C'est des gens qui travaillent vraiment, qui arrivent et qui te disent, qui te délivrent un vrai savoir, en fait,
Tu dirais que c'est en général des bons pédagogues? Parce qu'il y a quand même un risque, j'ai l'impression, c'est que parfois t'as des, moi, je me suis beaucoup plaint. Quand j'étais dans la première école que j'ai faite, que les gens soient tous plus ou moins des théoriciens, ouais. Et en fait n'aient aucune expérience concrète, et j'arrêtais pas, parce que je suis un peu un rageux, en fait, donc je disais ouais, mais ils y connaissent rien et tout. Et ensuite je suis arrivé dans une autre école où là il y avait beaucoup plus de professionnels, du coup, mais qui du coup étaient de très mauvais pédagogues, je trouvais, pour la plupart. Donc c'était des bons pédagogues. Parce que c'est deux choses vraiment différentes,
c'est vrai,
quoi.
T'as raison, hein. C'est vrai que t'as raison. Je pense qu'après il y a une sélection. Tous n'étaient pas des pédagogues merveilleux, mais en tout cas, ça allait, quoi. Enfin, en tout cas, c'était beaucoup plus intéressant que de plein de profs que j'ai eus, qui étaient censés être profs et pédagogues et qui étaient beaucoup moins pédagogues qu'eux. Enfin.
Et c'était quel genre d'enseignement? C'était très pratique, en fait.
Ouais, c'était extrêmement pratique. En fait, c'était à chaque fois des sujets, en fait, des vrais sujets. Et en gros, il disait de réaliser un motion design, une animation sur le sujet, en fait, sur le sujet qui existe. En fait, il y avait des professionnels qui venaient et en fait qui exposaient, en fait, j'arrive pas à parler.
L'avantage quand c'est pratique, c'est que ça te permet de voir assez rapidement ce que t'aimes faire et ce que t'aimes pas faire. Et ouais, j'ai l'impression que le gros problème avec l'enseignement qui est full théorique, que notamment j'ai eu en grosse partie, c'est qu'en fait, tu sais jamais ce que t'aimes faire, puisque t'as jamais rien fait. Et en fait, donc, d'une, tu sais rien faire, mais vraiment, tu sais rien faire, parce que t'apprends rien en juste apprenant de la théorie, parce que c'est pas parce que t'as... Enfin, mais ça marche vraiment dans tout, quasiment, quoi. Sauf si tu veux faire de la recherche, mais qui fait de la recherche? Et, enfin, je veux dire, il y a les chercheurs, quoi, mais bah, c'était pas un tacle, hein, c'était pas un tacle. Et...
Ouais.
Et... Mais dès que tu commences à faire des choses, en fait, tu te rends compte hyper vite de ce que t'aimes bien faire et de ce que t'aimes pas faire. Et en fait, ce que je me disais, après avoir fait des études de 6 ans où j'ai donc rien fait, c'est, ben, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé à faire des trucs, tu vois? Et toi, est-ce que t'as eu le sentiment, justement, que ça te permettait d'éliminer des choses comme ça?
Ouais, je pense. Après, c'est aussi... parce que toi, tes études, c'était... Tu savais avant de les faire que ça allait être théorique, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais à l'époque, je réfléchissais pas comme ça. Je me disais juste, je vais faire des grandes écoles avec un grand nombre. Non, mais vraiment, en plus. Ouais. J'étais plus en stratégie d'évacuation de... J'étais en province, en fait,
ouais.
Et j'avais une stratégie d'évacuation de la province qui passait par
j'aime
des écoles.
Le terme.
Tu vois?
Ouais. Et non, mais moi, je savais à la base que je voulais pas du tout. Je voulais vraiment des choses techniques. Je le savais, en fait. Donc, j'ai été vers ça. En fait. Mais en même temps, j'ai été vers ça. En fait, tout mon parcours, c'est assez naturel. J'ai pas forcément, comme toi, j'ai pas forcément vraiment, vraiment réfléchi. Alors, attends, il va se passer ça et ça. Ça a été assez intuitif. Je sais pas si ça se dit.
Ça se dit absolument.
Tout se dit, en fait. Tu peux inventer des mots ici.
Ouais, ça, tout se dit.
Et du coup, putain, merde, j'ai oublié. Et après, et voilà, donc j'ai oublié ce que je voulais dire.
L'angoisse. Attends.
Putain, merde.
Non, mais t'inquiète pas, regarde, je suis un professionnel. On va repartir. Attends, parce qu'en plus, j'avais vraiment un truc à dire.
Vas-y, là, je te laisse réfléchir. Moi, pour l'instant, j'essaie de retrouver un peu le fil aussi.
C'est marrant, j'ai oublié, j'avais vraiment un truc important à dire.
Bah là, on parlait de ton parcours, de l'évacuation de la province.
Non, de faire des choses de manière pratique. Et ouais, tu penses que c'était déterminant, les Gobelins? Que
c'était oui.
Dans ce que tu fais maintenant, par exemple?
Ouais, carrément.
Pourquoi?
C'était... Je pourrais pas vraiment dire pourquoi, j'essaie de réfléchir pourquoi, mais... Déjà, c'était en fait ça donne vachement de motivation, quoi, parce que tu vois des gens vraiment passionnés, t'es dans un environnement génial, en fait, pour apprendre, t'es super bien entouré, en fait, et j'ai souvent cette métaphore j'ai l'impression que peut-être tous les étudiants, ils sont vraiment traités comme des petits poussins. En fait, on a exactement, on est bien traités, quoi. Ça fait ça, on a les bons matériaux. Enfin, quand on veut faire un projet, on a le bon matos. On galère pas, en fait. On est vraiment bien chouchoutés, quoi. Donc, je dirais que, enfin, je sais pas, ça m'a vachement, et puis, en plus, c'est bête, hein, mais de faire les gobelins, c'est pas bête, mais justement, ça, en fait, ça t'ouvre beaucoup de portes.
Ça t'ouvre beaucoup de portes, tu veux dire concrètement, ou est-ce que c'est aussi psychologique?
Ah oui, ça c'est une bonne question. Bah, ça te donne de la confiance. Du coup, c'est psychologique, la confiance, mais bien sûr, après... Tu peux couper ce moment.
Non, celui-là, je devais le laisser quand même. Non, pas forcément. Oui, donc, donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça... est-ce que tu penses que ça a cassé des barrières mentales pour toi?
Bah oui, ouais, ouais. Bah ça donne confiance parce que là, cette fois-ci, j'avais vraiment réussi à rentrer dans une école, enfin, tu vois. Et puis, enfin, ce qui est drôle, c'est que j'habitais à l'époque dans le 13e arrondissement avant d'être pris à Gobelins.
C'est ça qui est drôle?
Ouais, non, c'est pas ça. C'est la suite qui est drôle. Attendez, vous allez rigoler. Enfin, non, c'est pas rigolo en fait. C'est une expression de dire c'est drôle. Et du coup, non, c'est bon, j'arrive pas.
Non, vas-y, du coup.
Et du coup, en fait, je passais tout le temps, je faisais mes courses à Carrefour.
C'est toi qui te marres.
Mais oui, c'est pas drôle. Je faisais mes courses à Carrefour et c'était juste à côté, enfin, c'était dans la même rue que les Gobelins, l'école. Et du coup, je passais tout le temps, genre, super timide devant les étudiants en me disant, oh, bah, c'est tellement bien si un jour je pouvais faire partie de cette école, etc. Et ça me fait rire parce que, du coup, je passais vraiment très fréquemment devant et je me disais, mais jamais, jamais je serais prise. C'est pas pour moi. C'est beaucoup trop bien. Et en fait, j'ai été prise.
Mais ça me parle beaucoup parce que quand je voulais rentrer c'était à Sciences Po Grenoble, donc, j'avais raté le concours et j'étais à la fac qui était vraiment à 20 mètres de Sciences Po Grenoble. Mmh. Et tous les jours, pour aller à la fac, je passais devant. Mmh. Et tous les jours, je me disais, ah là, j'ai raté, je suis trop nul et tout, mais j'aimerais trop y aller, tu vois. Mmh. Et souvent, j'allais dans Sciences Po Grenoble et je me disais, ah putain, ce serait trop cool d'être avec ces gens, ils ont l'air trop intelligents, ils doivent être trop forts et tout, mais je l'aurais pas et tout. Et ça me parle bien parce qu'après, je l'ai eu et après, j'étais bon, enfin, ça va quoi, tu vois, les gens, ils sont normaux et tout. Mmh. Mais moi, je pense que pour le coup, ça a énormément cassé des barrières de réussir les études. Ouais. Parce que c'est à chaque fois, ça a cassé la distance. Un peu comme de, je sais pas, mettons, rencontrer des gens connus sur le podcast, tu vois. Mm-hmm. Chaque fois, ça casse la distance que je me mets naturellement de on n'est pas pareil. Et je me dis, mais en fait, si, tu vois, c'est.
Ouais, carrément.
Et voilà, c'était mon intervention.
Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je le ressens beaucoup aussi. Que plus le temps. Je me rappelle avant, je rencontrais des gens, j'avais toujours l'impression d'être trop nulle par rapport à tout le monde en fait, et j'ai l'impression d'être toute petite et toute, je savais rien. Et maintenant en fait, plus le temps avance, et plus je me dis mais en fait, les gens ils sont comme toi en fait, tout le monde est comme toi. C'est juste que à un moment ils ont eu confiance, à un moment ils se sont dit ah bah moi je peux y arriver. Et en fait, il faut juste le dire en fait. Si tu te dis moi je peux y arriver, bah ça marche en fait. C'était la personne qui a la place la plus haut placée, c'est elle a rien de différent. Il y a rien de différent.
Ouais, c'est ça en fait. Ils ont et puis même tu te rends compte vraiment que tous les gens qui soient pas connus ou genre hyper connus etc. Ils ont tous des énormes comme toi, t'as tes failles, tes faiblesses. Ils les ont tous aussi quoi. Et vraiment, genre parfois elles sont énormes. Mm-hmm. Mais en fait, c'est comme c'est pas pour leurs failles ou leurs faiblesses qu'ils sont reconnus, c'est pour leur force, tu vois. Donc ça crée une genre de.
Oui, mais la force vient des failles.
Ah.
Bah ça, je pense beaucoup. Non.
Comment ça se traduit pour toi alors?
Bah, je sais pas, genre par exemple, donnons l'exemple de mes études un peu chaotiques, ça m'a donné beaucoup de force, tu vois. Et je pense que ça pourrait être considéré comme une faiblesse un peu d'avoir raté des choses comme ça dans son parcours scolaire. Mais en fait, ça m'a donné beaucoup de. Je pense que ça apprend en fait beaucoup. Hein. Quand il se passe des choses difficiles, c'est là où tu apprends le plus. Et ça nourrit ensuite. Ta future force. La force, ça vient des moments difficiles, je pense.
Tu dirais que du coup, t'es plus résistante maintenant ou plus résiliente face aux difficultés ou...
Ouais, bah oui, carrément.
Ça te met moins la pression, par exemple?
Bah ouais, je pense, je pourrais pas dire précisément qu'est-ce que ça a donné, mais moi, je suis sûre, mais dans tout, dans plein de choses, que les moments difficiles, les failles, les faiblesses, bah ça. Et puis même, ça nourrit, par exemple, la créativité. Si tous les gens qui créent, tu vois, si t'étais tout beau, tout bien, je suis un beau bébé, machin, et j'ai une belle petite fille, vie, et ben du coup bah il se passerait, enfin ça serait assez plat, tu vois ce que je veux dire, enfin je pense que les moments un peu trash, tu vois, c'est ça, c'est dans ces fosses qu'il se passe des choses, quoi.
Ouais, j'ai l'impression de puiser, dès que je crée un truc, de puiser en fait toujours dans les mêmes choses difficiles qui se sont passées il y a quelques mois.
T'as l'impression?
Ouais, j'ai l'impression de creuser beaucoup plus dans les trucs difficiles, ouais, que dans les trucs joyeux, parce que...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Déjà, on fait moins gaffe aux trucs joyeux, je crois. Tu sais, quand t'es heureux, tu fais pas gaffe. Et quand t'es malheureux, tu fais « Oh là là, j'étais tellement heureux à ce moment-là ». Et je me demandais, comment tu penses que les gens qui ont pas les gobelins, ou qui sont peut-être pas trop vieux pour le faire, mais qui ont envie de dessiner, mettons, comment est-ce que tu peux faire pour tenter de recréer un environnement stimulant? Parce que tu parlais, par exemple, du fait d'être avec des gens passionnés, tu vois. Et je me demande, il y a des gens qui vont pas pouvoir faire les gobelins, tu vois. Comment tu fais à ce moment-là pour... quand même, si t'as envie quand même de faire, je sais pas, carrière ou en tout cas de développer ton talent artistique pour te créer un genre d'environnement similaire, tu ferais quoi, toi?
Bah, oula, c'est compliqué comme question, mais je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut essayer de se rapprocher au maximum de des gens qui t'inspirent le plus, en fait. Tu vois, par exemple, juste d'écrire la lettre à Zep, d'essayer de se dire, moi aussi, enfin, je vaux pas moins bien, en fait. Et si je le sens, si c'est vraiment ce que je veux, et ben si s'accrocher, en fait, parce que c'est possible, c'est vraiment possible. Et c'est pas il faut juste s'accrocher, essayer de s'entourer. Après, je sais pas, parce que c'est assez fou ce que je dis, essayer de s'entourer des gens,
Il faudrait s'entourer de gens qui, comme toi, essayent de dessiner, de créer des choses.
Après, je pense que, par exemple, tu vois, moi, je publie... en fait, il y a eu aussi... Enfin, ce qui a changé beaucoup pour moi, c'est le moment où j'ai vraiment publié mon travail sur Internet. Tu vois.
Ah, intéressant, ça.
Ça, c'est vraiment...
À quel moment tu as commencé à faire ça? Donc,
c'était... en fait, j'étais... c'est marrant, parce que c'était encore un moment un peu difficile pour moi.
Pourquoi?
Parce que j'étais à Londres, un peu perdue. J'avais été virée de... j'étais fille au père, j'étais virée de la maison, enfin c'était un peu un moment un peu chaotique, tu vois.
Pourquoi t'as été virée de la maison?
Ah là là, la question. En fait, ils m'ont virée parce que, en fait, leur explication, mais qui est fausse, c'était juste une excuse pour me virer, mais c'était pas la vraie raison, parce qu'on vire pas quelqu'un pour ça, c'est que j'avais pas passé l'aspirateur dans ma chambre quand je suis partie en week-end. C'était ça l'excuse de me virer, mais je pense que, en fait, ça se passait juste mal, tu vois. C'était leur première fille au pair, et je pense que, enfin, je sais pas, on n'avait pas de feeling, quoi. C'était un peu bizarre. Je me sentais très étrangère à eux. Les enfants me regardaient tout le temps avec des énormes yeux comme ça, globuleux, parce que je savais pas très bien parler anglais et que ils avaient pas l'habitude, en fait.
Mais t'étais partie là-bas pour travailler?
Apprendre l'anglais. Après les gobelins.
Et tu parles anglais maintenant?
Un peu.
C'est vrai que du coup, tu t'es fait virer, ça. T'es rentrée ensuite
ou
pas?
Non.
Ok, d'accord.
Rentrée. Je suis pas dégonflée.
Et c'est là que t'as commencé à publier sur Internet?
Et ouais, c'est à ce moment-là, un peu à Londres, en fait, j'avais pas vraiment de... Tout était un peu flou dans ma vie. J'étais à Londres, je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire. J'étais fille au pair, c'est pas vraiment le métier que j'allais faire plus tard. Mais du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à publier sur Instagram. Et là, ça a vraiment eu un changement. Et du coup, ce que je conseillerais aux gens qui ne peuvent pas faire d'école, etc., c'est, par exemple, déjà, le fait de publier fréquemment, quotidiennement, et de partager son travail, c'est vraiment une source de motivation énorme, en fait, parce que t'as des retours, et puis en fait, moi, comme je le disais au début du podcast, j'ai commencé à dessiner parce que j'aime le fait, c'est ma manière de communiquer la plus facile pour moi, le dessin, tu vois. Donc en fait, ça répondait exactement au pourquoi du comment je dessine, c'est-à-dire de partager avec les autres, tu vois. Et donc du coup, c'était super motivant pour moi. Et je pense que je conseillerais ça aux gens, en fait. Je conseillerais c'est vachement motivant, en fait, de faire ça tous les jours. Et en plus, ça t'apprend beaucoup aussi parce que tu le fais, en fait. C'est du travail, tu dessines tout le temps, tu vois.
Et tu te disais pas, t'avais pas peur de partager en te disant qu'est-ce que les gens vont en penser?
Mais au début, j'ai vraiment hésité, hein. Je me suis dit, mais attends, est-ce que ça vaut le coup? C'est super difficile parce que on n'a pas confiance, on n'est pas de façon innée avec une confiance en soi, tu vois. Donc j'étais là et je me disais, en fait je mettais des restrictions dans ma tête, mais de trop débile, genre ah oui, du coup parce qu'en fait j'avais peur de que ça soit moche ou pas, enfin que ça, j'avais un peu peur de publier, donc en fait je m'étais fait des restrictions, je me disais oui, alors je vais publier que des choses en noir et blanc pour donner une uniformité, pour que ça soit moins moche alors que c'est con, tu vois, enfin.
Ah oui, tu t'étais dit alors que t'aurais dû faire quoi? Mais finalement, t'as pas publié en noir et blanc au début?
Non, pas du tout. Mais je l'ai pas fait. Mais au début, avant de publier, j'avais réfléchi. Je me disais, alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner un peu, tu vois, l'ensemble, pour pas que ça soit trop...
Ah, tu t'essayais de penser au truc dans son ensemble, ouais, en fait, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas un truc qu'on fait souvent quand on débute, du genre... Tu trouves des excuses pour empêcher de commencer parce que t'imagines ton œuvre en grand, tu sais, et tu veux construire ta pyramide, mais tu veux pas commencer par mettre les petites pierres en dessous, voilà, c'est ça, tu veux direct arriver avec la pyramide, en fait.
Oui, je comprends ça, mais moi c'était pas la pyramide, je pense que c'était juste je pensais pas que ça allait donner ça, hein. Je pensais pas que ça allait vraiment marcher au début, je me disais juste je veux juste pas que ce soit trop moche, si j'ai 3 abonnés ça sera moins, enfin j'étais pas en mode grande pyramide énorme, j'avais pas une ambition comme ça, je pensais pas que ça allait donner ça, tu vois.
Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé finalement?
J'ai eu de la chance parce que j'ai des gens qui y a des gens qui aimaient beaucoup ce que je faisais et qui m'ont vachement encouragé, tu vois. J'ai eu de la chance pour ça.
Et tu t'es mise à t'avais au départ t'avais un rythme, je te dis je vais publier quotidiennement
dès le début, premier poste 7 jours tout le temps, 7 jours sur 7.
Ça fait 2 ans que tu publies 7 jours sur 7.
Non. Ah, donc là je publie moins, tu vois,
là j'ai vu tu publies quasiment 5-6 fois par semaine quand même.
Oui, je publie. Mais j'ai plus ce truc dans ma tête 7 jours sur 7 parce qu'en fait au début j'avais vraiment, je sais pas pourquoi, c'était comme un toc, je sais pas comment expliquer, mais je me disais mais oui, alors aujourd'hui je vais dessiner, enfin c'était très je me posais même pas de questions, je disais aujourd'hui je dessine un dessin puis le lendemain ça sera un autre et puis ainsi de suite, tu vois. Et puis en fait ça a duré très longtemps, j'ai dessiné tous les jours pendant je sais pas plus d'un an je pense, tu vois.
C'était toujours du jour pour le lendemain, enfin c'était toujours le jour même, je veux dire, pardon.
Ouais.
OK.
Et même aujourd'hui, souvent, je dessine pour le jour même. Enfin, j'ai pas un stock de dessins.
T'avais la même organisation à cette époque-là que maintenant, tu dirais, dans tes journées? Parce que j'ai lu dans une de tes interviews, très rare, que tu dessines le matin plutôt.
Ah, c'est vrai. Ça a un peu changé d'ailleurs. Enfin, maintenant, ça a beaucoup changé parce que maintenant, avant c'était pas professionnel, maintenant c'est beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire que maintenant j'ai un agent et que mes journées ne se résument pas à aller à être nanny et à faire des petits dessins. Maintenant j'ai des vrais boulots à côté aussi, tu vois. J'ai des boulots avec d'autres clients. Donc en fait maintenant c'est plus devenu mon passe-temps, et en fait c'est le truc que je préfère faire, en fait, c'est faire mes petits dessins et les publier, et en fait mes journées du coup sont très différentes que quand j'étais à Londres, tu vois.
Tu veux dire que t'as un peu gardé les petits dessins comme un hobby, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et tu gagnes ta vie avec du travail que tu fais pour des clients.
C'est ça, exactement. C'est un truc qui se répond, un cercle vertueux, c'est-à-dire que du coup je publie mes dessins, et j'adore, c'est comme des petits bonbons pour moi, j'adore faire des petits dessins, des petites histoires de etc. Et en fait c'est un cercle vertueux parce que du coup il y a des gens qui les gens me suivent, les gens connaissent mon travail, du coup me proposent du travail grâce au fait que je publie et que je suis visible, et aussi j'ai mon e-shop, tu vois, je vends sur mon e-shop. Et
ça tu l'as mis en place très vite, non?
Ouais, au bout de un an et quelques, je pense.
Ouais, quand même.
Ouais.
Ça a mis combien de temps, tu dirais, est-ce que les gens te remarquent ou fassent attention à ton travail sur Internet? Je sais que c'est quelque chose de graduel et de progressif, mais à quel moment tu t'es dit, t'as commencé à te dire, là, il y a quand même vraiment une réponse, quoi.
Franchement, ça a été rapide. Je pense, au bout de, j'ai pu, comme je publie vraiment énormément, déjà c'est sûr que ça c'est plus rapide quand tu publies beaucoup de choses, de contenu, mais c'est au bout de 3 mois, je dirais. Au bout de 3 mois, j'ai un agent qui m'a contacté. Donc là, ça a pris 3-4 mois. J'ai pas beaucoup d'espace, j'ai pas beaucoup de mémoire de temps. Je me rappelle jamais des mois, et tout ça, tout est un peu embrouillé dans ma tête. Mais on va dire qu'au bout de 3-4 mois. Et du coup, ça a pris un autre tournant à ce moment-là. Et puis après, il y a eu de plus en plus de gens qui ont commencé à connaître mon travail. Donc voilà.
Tu penses que pour quelqu'un qui voudrait faire du dessin ou qui se lance ouais. quotidiennement, c'est le rythme qu'il faut essayer d'avoir, publier, partager son travail quotidiennement.
Mais après, moi je dirais pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que déjà, en fait, ça correspond. En fait, ce format me correspond parfaitement. C'est-à-dire que je dessine beaucoup, je dessine assez vite et mon trait est assez simple. Par exemple, je dessine à la tablette directement. Donc, par exemple, il y a plein d'artistes qui font des choses magnifiques, qui font des choses au crayon de couleur ou à la peinture, qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, en fait, on ne va pas leur demander de publier quotidiennement. Ça serait bizarre, ça ne serait pas cohérent, en fait. Mais en tout cas, moi, ça me correspond complètement. Mais en fait, juste le fait de publier quotidiennement ou pas, mais juste publier, partager ce que tu fais. Parce qu'il n'y a pas de secret, en fait. C'est ça. J'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de secret. Si tu ne montes pas ce que tu fais, il ne se passe rien pour toi. C'est comme si tu faisais des choses magnifiques, tu es dans un trou. Enfin, il va rien se passer pour toi parce que personne ne va pouvoir voir ce que tu fais. Tu vois.
Et tu sais, finalement, tu dis que tu avais un peu peur de partager au départ parce que tu avais peur que ce ne soit pas bien. Et ça commence à. Ça, c'est parti immédiatement, une fois que tu as commencé à partager.
En fait, c'est pas parti tout de suite, mais ça a été tellement. En fait, ça a été comblé par tout le plaisir que je prenais à partager. En fait, j'avais tellement de plaisir à dessiner, à partager, que du coup, je sans m'en rendre compte, j'ai gagné en confiance, tu vois. Mais petit à petit, en fait, c'est à force de, tu vois, genre à force de le faire, à force d'aimer le faire, et voilà. Mais je pense que ça a mis. Maintenant, je me sens à l'aise. Mais même aujourd'hui, parfois, je me sens pas forcément à l'aise avec mes dessins. Enfin, je suis pas. Tu vois. Parfois, je me dis, ouais, c'est peut-être moche. Tu vois.
Comment tu fais pour savoir si c'est bien ou pas bien? Si tu le sais toi ou tu demandes à des gens ou...
Je suis beaucoup conseillée par ma sœur, Lorraine. Et souvent, en fait, pour être sûre. Parfois, je suis 100% sûre, donc je demande à personne avant de le partager. Mais il y a des moments où je doute. Et quand je doute, je demande à ma sœur. Voilà. Et puis elle a c'est la vie, c'est un peu le, je sais pas, c'est un peu la vie.
C'est ton conciliaire un peu.
Ouais, je sais pas, ça c'est un peu le la parole de Dieu quoi. Je me rappelle qu'elle va me dire un truc, c'est ah oui, c'est vrai, Lorraine l'a dit.
Et t'as pas peur de, parce que comme t'as un style assez reconnaissable, est-ce que t'arrives à publier des choses, t'arrives à tenter des trucs nouveaux sans avoir peur?
Ah bah ça c'est un truc qu'il faut faire attention, parce qu'en fait je me suis rendu compte moi-même que je m'auto-répétais parfois, tu vois, dans certains dessins. Et en fait c'est aussi un truc de confort. Il faut aussi apprendre à faire des choses un peu plus dangereuses quoi. C'est facile parce que tu dis ah tiens, je sais que les gens aiment, je sais que ça plaît, et par exemple tu sais, je fais des dessins, je sais que cette couleur ça va plaire, etc., parce que j'ai de l'expérience en fait, vu tout ce que je partage. Mais en fait il faut pas rentrer là-dedans, tu vois. Il faut bien sûr prendre en compte, mais il faut aussi se mettre en danger, en fait.
C'est quoi pour toi se mettre en danger? Enfin, comment tu te mets en danger, toi, par exemple?
Je me mets en danger, j'essaye des nouvelles compositions complètement différentes, je vais essayer des couleurs qui changent, je vais essayer des personnages, des proportions de personnages différentes, des choses vraiment, des thèmes, des thématiques. Enfin, après, la thématique reste toujours un peu la même.
Mais... C'est souvent centré autour de l'amour et des choses comme ça, non?
C'est ça, l'amour, la femme.
Pourquoi? Non, mais enfin, la femme, je crois que il m'a semblé lire que tu aimais bien juste dessiner les femmes depuis un peu naturellement, quoi.
Mais en fait, j'aime bien, ça me vient très naturellement, la courbe, tu vois. Le fait qu'une femme, c'est beaucoup plus rond, et l'amour, parce que c'est, depuis toute petite, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, et naturellement, je dessine l'amour, voilà.
Quand je dis ça t'intéresse, qui t'intéresse le plus, c'est genre dans
tes... Et comme tout le monde, non?
Ouais, c'est comme
c'est
ça.
Centre de plein de, tu vois, même de d'œuvres artistiques, tu vois, dans chaque film, dans chaque livre.
Ouais, même les chansons, c'est quasiment que des chansons d'amour.
Exactement.
Ça t'est déjà arrivé de justement te mettre en danger, tester un nouveau truc et que ça prenne pas, dire oh là là, j'aurais pas dû, ou te...
Vas-y, attends, je réfléchis. Je réfléchis. J'essaie de Je suis désolée, mais je vois pas trop. Enfin là.
Non, mais ça peut-être que.
Bah peut-être. Enfin, certaines collabs en fait. En fait, ce qui marcherait, enfin, ce qui parle le moins, c'est souvent quand je collabore avec des marques. Du coup, en fait, c'est plus briefé. Donc en fait, je vais faire des dessins peut-être qui me ressemblent moins. Mais en fait, sinon, enfin, dès que ça me ressemble un peu et que je fais vraiment des choses vraiment librement, bah ça a jamais foiré.
Tu dirais que tu progresses au niveau de choisir justement des projets qui te ressemblent quand tu travailles avec des gens? Parfois, ça t'arrive de faire des erreurs justement, de te tromper et de te dire, oh là,
ouais,
j'aurais pas dû faire ça.
De faire des erreurs. Ça m'arrive encore de faire des erreurs, mais je progresse. Et en plus aussi, le fait qu'on m'appelle, j'ai des propositions, plus intéressantes aussi, tu vois. Donc en fait, j'ai le choix, j'ai plus de choix qu'avant, parce que je peux te dire, quand tu commences, tu as besoin de payer ton loyer. Du coup, tu vas choisir des choses qui vont pas te correspondre. Mais maintenant, je peux me permettre de choisir vraiment, tu vois. Donc, mais même si quand tu as le choix, parfois tu te trompes.
Hein. Et tu penses que quand tu commences justement et que il faut tout accepter ou que non, mais c'est une vraie
ouais,
question
c'est
parce
une vraie
que
question.
Tu dis quand tu commences, tu as besoin de payer ton loyer.
Ouais.
Et en même temps, j'ai l'impression que si tu acceptes des choses qui te ressemblent pas pour payer ton loyer, tu risques très très fort d'entrer dans un genre de parce que toi, si tu prends que des choses qui te ressemblent, tu finis par avoir une marque très forte.
Ouais.
Et les gens viennent te chercher pour cette marque parce qu'elle est hyper forte. Si tu compromets cette marque avec des choses qui te ressemblent pas, finalement, ce qui était très fort devient flou.
Ouais.
Et les gens vont peut-être pas venir te voir puisqu'ils vont dire, ouais, mais il fait un peu de tout, des trucs pas ouf, des trucs, tu vois.
Moi, j'ai un truc à dire là-dessus. C'est que il faut vraiment, parce que moi j'acceptais pas les trucs nuls, quoi. Enfin, du coup, j'étais souvent dans la merde quand j'ai commencé. J'avais pas d'argent du tout, j'étais dans la merde en fait. Je me concentrais complètement, en fait, j'étais vachement concentrée sur mon style, sur mes rester libre, ne pas faire. Et en fait, le conseil, c'est vraiment de croire en ça en fait. Parce qu'il y a un moment, en fait, il va avoir un moment, ça va être difficile. Quand tu commences dans tout, c'est difficile. Et si tu persévères, plutôt que de te perdre, justement, à te compromettre avec des clients qui vont te demander de faire des trucs moches, tu vois, ben, il faut mieux persévérer, en fait. Et c'est là que ça marche. Et c'est pour ça, quand tu dis ça, oui, t'as complètement raison, en fait. Il faut vraiment, ça marche comme ça. Souvent, par exemple, tu vois, il y a des gens qui disent, ah oui, mais attends, là, souvent, voilà, ça, c'est typique des jeunes d'aujourd'hui.
Alors les jeunes
d'aujourd'hui, t'es la fille qui a 25 ans et du coup
bon, les jeunes d'aujourd'hui, dis-nous alors.
Ça c'est horrible de dire ça, c'est aussi interdit.
Ça ouais, c'est interdit.
Interdit ou pas?
Ouais, ouais.
Ah mais non, il y a rien d'interdit.
Non, tu peux tout dire sur ce podcast.
Sauf digital et.
Non mais là la digital, maintenant tu vas dire ubérisation de la société.
C'est horrible. Et putain, j'ai oublié ce que je disais.
Non, tu allais dire. Ce qui est important,
oui,
la typique
jeunes.
Des jeunes.
Donc ouais, typique des jeunes d'aujourd'hui, la phrase de vieille conne, c'est que en gros, ils disent ah oui, parce qu'en fait, on est dans une société où il y a pas beaucoup de boulot, on a peur en fait, on est vachement peureux. Tu vois, on a besoin de confort en fait. Tous les jeunes veulent du confort, veulent gagner leur vie, veulent être sûrs parce que rien n'est vraiment sûr. C'est difficile d'avoir de l'argent, d'avoir un métier, un CDI, etc. Et du coup, en fait, ce que disent la plupart des gens qui m'entourent, de mes amis, c'est ah tiens, je vais de toute façon, oui, j'ai un truc, c'est une passion, mais je vais me mettre dans ce métier, je vais économiser, t'inquiète, je vais pas rester très longtemps, c'est juste et en fait ils se mettent dans un truc qui leur correspond pas du tout, et en fait ils vont rester des années, tu vois, enfin il y a des gens que ça fait genre 3 ans et en fait ils se perdent là-dedans parce qu'en fait ils ont aucun moment pour eux et après c'est sûr il faut trouver un équilibre parce que il faut quand même rester dans tu vois une réalité, faut avoir de
pouvoir
l'argent
manger, quoi.
Mais imaginons que t'as le confort de vivre chez tes parents et va chez tes parents et profite de ce qui se passe parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir vivre chez ses parents et profiter de pas payer le loyer, mais je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur vraiment les choses qui te passionnent plutôt que de s'enfermer dans un métier et de pas y sortir, tu vois.
Ouais, ça veut dire aussi renoncer ou sacrifier parfois au départ, je pense, des objectifs de confort que t'as envie de gagner assez d'argent pour pouvoir un peu faire la fête ou manger au resto, ce genre de machin. Et parce que, en fait, je pense que, tu sais, souvent, tu veux pas te lancer dans ta vocation créative, disons, quand t'es pas sûr de vouloir le faire à fond parce que tu te dis, je vais pas y arriver, quoi, je vais pas pouvoir vivre. Mais je pense, quand même, après quelques années à tenter différents trucs, que, en fait, si, vivre, c'est pas quand t'es jeune, disons, quand t'as pas une famille, etc. Mmh. Je peux parler pour tout le monde. Hein. C'est pas non plus si compliqué que ça, parce que en fait, t'as besoin d'assez peu finalement pour vivre, juste, tu vois, pour survivre, disons, le temps de faire ton truc à fond et que ça finisse par donner quelque chose. Parce que ça va pas prendre 10 ans, tu vois, non plus, quoi.
Mmh, si
tu fais ton truc à fond, au bout, tu dois pouvoir commencer à trouver des opportunités.
Et au moins, t'essayes vraiment, quoi. Tu vois.
Ouais.
Il faut au moins essayer, quoi. T'essayes à fond, quoi. Parce que c'est pas en allant à un boulot qui te plaît pas et qui t'épuise un peu, tu vois. C'est épuisant quand t'es dans un truc et enfin c'est des horaires de robot comme ça, 8h 19h et c'est je trouve que c'est pas bon, c'est pas du tout bon pour et puis en plus c'est tu trouves aussi des excuses, enfin je trouve que aussi ça fait partie de tout ce gros truc qu'on peut comment dire, toutes ces excuses qu'on peut se trouver. Ah oui, mais tu vois là, moi j'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça. Bah oui, mais c'est des excuses en fait. Si t'as vraiment envie, tu tentes, quoi.
Qu'est-ce qui fait que toi, justement, tu as compris ça, tu penses? Ou que tu te dis ça?
Bah, je pense que c'est...
Parce que je vais te dire pourquoi je te dis ça. Ouais, parce que je disais un truc à peu près similaire à une pote il y a quelques jours.
Ouais.
Mais je le disais même pas pour elle. Hein. Je disais juste, bah voilà, si machin, je sais plus de qui on parlait, si machin veut faire ça dans la vie, bah il a qu'à faire ça, quoi. Mm-hmm. Et parfois, je dis des choses un peu comme ça, tu sais, brutalement, pas très diplomate.
Ouais.
Et elle me disait, non, mais c'est pas vrai, tout le monde n'a pas forcément... les moyens de le faire ou la confiance en soi, et je disais bah oui, ok, mais ça se travaille, tu vois. Genre, faut que si tu commences pas, c'est sûr que tu vas jamais l'avoir,
exactement.
Tu vois. Mais si tu, c'est comme la discipline, par exemple. Je sais que quand j'ai commencé à essayer de travailler dans la vie, de travailler sur mes trucs, je me trouvais, mais genre, j'arrivais pas à rester concentré plus d'une demi-heure, j'arrivais pas à travailler, quoi. Et maintenant, je me vois, mais je suis bien plus discipliné, je suis bien meilleur à me concentrer, à dire non à des choses, à vraiment savoir ce qui est important, etc. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est graduel, que c'est un process qu'il faut enclencher à un moment, tu vois.
Bien sûr.
Donc voilà pourquoi je te posais la question. Pourquoi tu penses que toi, t'en es arrivé là ou...
Mais je pense que le plus dur, c'est le moment où tu commences, tu vois. C'était souvent, tu sais, tu vas avoir des gros projets à faire. Je sais pas si ça te fait ça à toi. T'as des trucs. Et en fait, le plus dur, c'est le moment où tu vas, c'est pas de le faire, le plus dur. C'est le moment où tu vas avoir la motivation de le commencer, en fait. C'est ça le plus dur. Moi, souvent, j'ai des gros projets. Et en fait, je me dis, attends, je me fais toute une montagne. Je fais, non, mais attends, c'est dur. Je vais pas y arriver, dans ma tête. Enfin, ça dure pas longtemps. Mais, et puis, en fait, tu t'y mets, tu te dis, en fait, c'est facile. Il faut juste que tu fasses. Le plus dur, c'est vraiment de le faire.
T'as trouvé des techniques pour t'y mettre maintenant?
Technique, c'est le travail. Plus tu le fais, et plus tu le fais facilement, et ainsi de suite. Vraiment, c'est ça.
Et c'est quoi du coup ton mode de vie maintenant? Enfin, comment tu répartis ton temps, en fait?
Je me lève tous les matins assez tôt.
Quelle heure?
Entre 7h et 8h, je pense. Et du coup, je commence mon rituel comme tout le monde. Je pensais genre je prends un petit déjeuner. non, mais
tout le monde n'a pas le même rituel pour le
c'est
coup.
C'est vrai. Ah, mon rituel est assez discipliné. Hein. J'ai un carnet. En fait, j'ai un petit carnet un peu secrétaire où je note exactement tout ce que je dois faire. Je suis très organisée, en fait, parce que en fait j'ai tendance à un peu être dans la lune. Je suis un peu lunaire, un peu toute la vie. Je me retrouve dans un autre monde tout d'un coup. Du coup, en fait, je suis un peu obligée de me mettre des listes et d'être un peu rude, tu vois, parce que sinon je me laisserais un peu aller dans mes rêves. Et du coup, tous les matins, je me réveille assez tôt, je commence toujours par un peu faire le ménage. Je réponds à tous mes mails, je vois un peu ce que j'ai vraiment concrètement à faire.
C'est le premier truc que tu fais.
Ouais.
Ah, d'accord, c'est intéressant. Non, c'est trop intéressant. Il y a plein de gens qui vont par exemple dire ça je le fais l'après-midi, le matin, comme ça je suis créatif ou...
Ouais, mais après, attends, j'essaie de réfléchir, parce que ça dépend. Non, je commence souvent par mes mails. En fait, je commence souvent par balayer un peu. Même chez moi, souvent le matin, je fais le ménage, tu vois. Je range. En fait, le matin, même avant de travailler, je fais un petit ménage. Tu
Pourquoi,
vois.
En fait?
Parce que ça me permet de m'ordonner dans ma tête, tu vois. J'aime bien faire un peu le ménage le matin pour être plus. Parce que si c'est rangé chez moi, ça va être. Je vais travailler plus vite. Je vais avoir l'esprit beaucoup plus clair, tu vois.
Parce que sinon, t'as des choses dans ta tête, tu te dis, faut que je range, par exemple. Non, mais c'est ça. Tu te dis, faut que je range, faut que je bouge ce truc.
Ouais, c'est ça. Non, mais là c'est premier degré, ça serait ça. Mais après, il y a tout ce qui, derrière tout ça, et c'est, tu vois, tu as plus d'espace, en fait. C'est quand c'est rangé, t'as plus d'espace dans ta tête, tu vois, vraiment. Et du coup, je range mon appartement. Voilà. En fait, vraiment, si je devrais être honnête, je range vraiment presque tous les matins, je fais un petit ménage, quoi. Parce que j'ai besoin, genre, presque tous les matins, c'est l'aspirateur. Parce que j'aime bien quand c'est de la place, quoi, et je peux travailler.
Voilà. Et après, direct, tu commences à travailler sur tes trucs. Tu fais quoi, en fait?
Eh ben, là, la première chose que je fais, c'est répondre à tous mes mails. Ensuite, c'est soit je fais ma petite liste secrétaire, le soir avant de dormir, mais je le fais souvent le matin, en fait, après avoir fait mes mails, ou avant avoir fait mes mails. Je fais ma petite liste secrétaire.
C'est pareil, c'est pour ordonner, en fait, non?
Ouais, c'est ça. Et en fait, avant mes mails, par contre, je commence toujours par le truc qui me fait le plus plaisir, tu vois, dans ma liste. Juste après avoir fait mes mails. Voilà.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça va être le moment où je vais avoir le plus d'énergie, en fait. Je sais pas, je vais avoir beaucoup d'énergie à ce moment-là et du coup, je vais vouloir la mettre dans le truc qui me fait le plus plaisir, tu vois.
Mais est-ce que le truc qui te fait le plus plaisir, c'est souvent le plus important ou pas du tout?
Ah non, c'est non, pas du tout.
Et du coup, il n'y a pas un risque, genre, t'arrives pas à avoir la motive de faire le plus important?
Ouais. Il faut trouver l'équilibre, mais du coup, comme je mets beaucoup d'énergie dans ce qui me fait le plus plaisir parce que c'est plus naturel, parfois c'est vrai que ça empiète un peu sur le reste. Et en fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est me faire mes petits dessins et mes petits trucs librement. Après, ensuite, les clients, bien sûr, je choisis des projets que j'aime, tu vois. Donc, en fait, ça me fait aussi plaisir, mais voilà.
Non, puis du coup, ça veut dire que si tu mets, logiquement, si tu fais le plus possible les trucs qui te font plaisir, ça veut dire que tes journées qui sont quand même assez plaisantes.
Ah oui, mais bien sûr. Tout me fait plaisir. Vraiment, en fait. Tout me fait plaisir. Parce que là, j'ai atteint un stade où j'accepte que les choses qui me font plaisir. Donc, en fait, ma vie professionnelle est plaisante et très épanouissante, tu vois.
Tu dessines autant qu'au moment où t'as commencé à publier tous les jours?
Je dessine plus.
Tu dessines plus? Tu dessines combien de temps par jour environ?
Beaucoup d'heures. Je les calcule pas, hein, mais je dirais en moyenne, parce que tu vois, il y a tout le moment où tu vas dessiner et après il y a le moment où tu vas, par exemple, écrire un mail ou modifier le fichier. Donc en fait, effectivement, je pense que je travaille peut-être, je dessine peut-être 4 heures par jour, tu vois. Je dirais ça entre éparpillé dans la journée. Et puis sinon, le reste, je le passe à je sais pas, ça peut être changer de fichier, écrire le mail, organiser, tu vois, tout ça.
Mais du coup, si tu te lèves super tôt tous les matins, ça veut dire que tu peux pas sortir? Ou est-ce que tu peux sortir? Je te pose cette question parce que moi, j'essaye du coup de me lever tôt, tu vois, en ce moment.
Ouais.
Mais j'ai trop besoin de dormir. Et du coup, je peux plus.
Ouais, je vois.
Je peux plus. En fait, soit j'accepte parce qu'à Paris, t'as tout le temps des trucs à faire le soir. Donc, soit j'accepte de faire des trucs le soir et de voir des gens et du coup, impossible de me lever. Mais vraiment, je me réveille à midi. Soit je me dis, arrête de déconner, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses des choses dans ta vie. Et du coup, je peux pas sortir. Sinon,
tu te lèves pas.
Sinon, je me lève pas. Ou alors, je suis vraiment trop fatigué. Et après, je peux plus rien faire. Tu sais, je passe ma journée. Je regarde des trucs sur internet, aller voir sur YouTube et tout, tu vois.
Après, moi j'ai de la chance de très bien dormir.
Ah ouais.
Donc je pense que ça change beaucoup. Je pense que je peux dormir peu d'heures et comme je dors comme un caillou, du coup je me réveille souvent en forme, tu vois.
Ah ouais, tu te réveilles, tu te réveilles toute seule ou tu t'as un réveil? Les questions sont vraiment, tu sais, je creuse jusqu'au bout, mais ça m'intéresse.
Je me réveille seule, jamais de réveil, jamais. Jamais, jamais. Je me réveille toujours.
Donc t'es vraiment réglé comme une horloge, quoi.
Mais non, mais même c'est juste que je vois pas pourquoi si j'ai la chance de travailler chez moi, je mettrais un réveil, tu vois, parce que c'est le luxe de se réveiller quand tu te réveilles, tu vois, c'est quand même génial. Plus personne se rend compte, même il y a des gens qui mettent des réveils le week-end, tu vois, parce que c'est à ce moment-là que tu vas, je pense que c'est en mettant pas de réveil justement que tu vas réussir vraiment à te réveiller plus tôt. Enfin, genre, c'est pas en te mettant un réveil qui sonne c'est un peu le truc où tu te dis, ah, ça sonne et t'as pas envie de te réveiller. Parce qu'en fait, moi, il y a des moments où il y a des réveils, tu vois. Et en fait, quand il y a des réveils, c'est justement quand il y a un réveil que t'as pas envie de te réveiller parce qu'il y a un réveil. Donc, en fait, c'est une obligation de te réveiller. Alors que quand il y en a pas, tu te réveilles quand tu veux, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu prends plus de plaisir au réveil, tu vois.
Et c'est quoi les choses sur lesquelles tu trouves que t'as encore des difficultés ou que t'es pas encore aussi forte que t'aimerais ou, s'il y en a, hein, s'il y en a.
Il y en a pas. Non, mais si, bien sûr que si, on a. Dans le domaine du travail.
Ouais, ou même de la vie. Hein.
Je sais pas, parfois j'aimerais plus, tu sais, parce que j'ai tendance à être un peu dans. Tu sais, genre, il y a des moments comme ça, tu sais, il y a des périodes, je sais pas si t'as t'arrives d'avoir des périodes de où t'as un caractère un peu différent. Et en fait, j'ai ce penchant. Et je sais que mon penchant, on peut être dans une bulle, tu vois, un peu dans la lune, tu vois. Et je pense que si je devrais améliorer ça, c'est peut-être être plus un peu sur les pieds sur terre et à, être moins dans, dans les rêves, tu vois.
Ça veut dire quoi?
Je sais pas, c'est genre, ça veut rien dire en fait. Non, mais je sais pas comment expliquer, mais tu sais, il y a des moments. En fait, c'est juste que ça m'énerve parce que tu vois, par exemple, quand t'es dans la lune, parfois tu vas avoir des rendez-vous et tu vas être un peu ailleurs, tu vois.
Ah, pendant les rendez-vous, t'écoutes pas, tu veux dire?
Non, j'écoute ou j'écoute à moitié, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que, on sait pas vraiment en tout cas améliorer, c'est de la merde en fait.
Ouais, c'est genre,
je suis un peu trop parfaite.
Je suis perfectionniste.
Ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis en entretien.
C'est pas le pire truc de pas écouter dans les rendez-vous relous, non?
Ouais, bon, ok, vas-y, j'essaie de trouver autre chose. D'ailleurs, en plus, ça peut être une qualité. En fait, c'est une qualité aussi d'être un peu ailleurs, tu vois.
Bah, c'est un peu lié à la créativité, non?
Ouais, bon, je sais pas, mais en tout cas, ça permet d'être, tu vois, de se sentir bien aussi, tu vois. Je sais pas. Et non, attends, j'ai réfléchi. Vas-y, donne-moi une idée de choses que je pourrais pas bien faire.
Moi, je te donne un exemple personnel. Vas-y, c'est, Je trouve que j'arrive pas à, toujours pas à rester assez concentré, tu vois. C'est-à-dire que je vais commencer à faire un truc, mettons, je fais de la musique. Mm-hmm. Et au bout de, allez, trois quarts d'heure, mon attention déconne. Je commence à penser à d'autres trucs et tout. Donc là, je me dis, bon, ok. je me lève, je sais pas, je fais des trucs et tout. Et j'ai encore, je trouve que c'est pas incroyable comme, tu vois, il y a des types qui sont vraiment focus, tu vois.
Ouais.
Tu les vois et tu te dis, mais putain, le mec, pendant trois heures, il est à fond dedans. Et genre, il se réveille trois heures après. Et moi, il y a des activités qui me font ça, où je me réveille un certain temps après, mais c'est trop court, je trouve, tu vois. Mm-hmm. C'est genre 45 minutes. Ouais. Et après, je suis là. Et du coup, c'est difficile parce qu'à chaque fois, je dois refaire la démarche de m'y remettre. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Bah oui,
qui est le truc le plus difficile,
c'est
finalement.
Ça. Exactement.
Parce que, une fois que je suis dedans, j'adore, mais c'est trop court, quoi. J'aimerais bien que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment faire pour l'instant.
Bah après, c'est comme tu disais, je pense que plus tu t'exerces, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça.
Ouais, mais j'en suis quand même à un stade où je mets mon téléphone dans une boîte avec un minuteur.
Ouais,
je te jure, je suis taré. Hein. Et j'ai des sites qui j'ai une application qui bloque tous les sites sur mon ordi. Normalement, je peux rien faire, quoi. Et je trouve quand même un truc à faire.
Tu fais quoi du coup?
Bah, je me lève. Genre, je fais la vaisselle. Mais après, je pense que c'est utile aussi. Ça permet de traiter un peu les idées, etc. Tu vois, mais du coup, ce qui me dérange, c'est que je dois refaire l'effort de m'y remettre.
Ouais.
Et je trouve que j'ai l'impression de perdre. Du
en
temps
efficacité.
Ouais, ou de l'efficacité, ou tu vois.
Après, je pense que tu sais, il y a pas de bonne manière de travailler, tu vois. Genre, même si c'est difficile de s'y remettre, imaginons que ça soit chacun est différent, donc imaginons toi c'est un peu ton maximum. Imagine t'as des genre de...
Non, mais parce qu'en fait c'est vraiment, moi j'ai toujours eu ce truc où j'arrive pas à rester concentré. Mm-hmm. Genre en cours, vraiment littéralement au bout de 15 minutes je pense à autre chose, je suis là complètement complètement à l'ouest. Mon institutrice, elle m'appelait Antonin de la Lune quand j'étais petit.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
C'est trop chou, ça.
Ouais,
j'adore.
C'est mignon, ouais.
Franchement, c'est mignon, ça va. Moi, j'aurais pris comme un compliment.
Ouais, à l'époque c'était moins, tu sais, c'était pas très, c'est pas très badass, quoi, sur Antonin de la Lune, donc mais bon. Mm-hmm. Maintenant ça, je le prends mieux. Ouais, donc pardon, je t'ai coupé.
Non, mais je disais que je pense que si tu le vois vraiment comme un inconvénient, que t'arrives pas vraiment à faire ce que tu dois faire, ça c'est, il faut essayer de le changer ou de s'améliorer, mais en même temps il y a pas de bonne technique, comme tu dis. Parfois tu vas être concentré 45 minutes, après tu vas penser à autre chose, mais le fait que t'aies pensé à autre chose va pouvoir te permettre de en fait tu peux pas, le cerveau humain se nourrit d'autres, tu vois, tu vas te faire une activité, mais cette activité va se nourrir d'autres choses aussi, tu vois. Enfin, je pense que c'est pas forcément négatif d'être déconcentré, tu vois.
Tu gardes des moments toi pour rien faire ou pour t'ennuyer ou pour faire des trucs comme ça? Parce que tu sais, on vient un peu dans une période où genre quand tu
fais rien,
t'as l'impression qu'il faut toujours être productif.
Ouais, ouais.
Et moi en ce moment j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à créer des zones où je m'ennuie un peu, où je fais rien, ou tu sais, où par exemple où je vais jouer. La dernière fois j'étais avec une pote, on allait dans un bar et il y avait une table de ping-pong et on a joué au ping-pong. Et c'était trop bien.
Ouais.
Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué au ping-pong et j'avais l'impression que ça, tu sais, je sais pas, comme si ça m'avait redonné une énergie un peu, tu vois. Tu t'arrives, enfin, est-ce que tu fais un effet déjà, est-ce que t'as ces moments-là?
Ouais, je les ai. Mais en fait, je pense que j'ai la qualité de quand, par exemple, je suis avec quand je suis pas dans la lune, du coup. Mais bon, ça m'arrive, hein. Mais quand je vois mes amis ou quand je fais des activités qui n'ont rien à voir avec, j'arrive à complètement déconnecter. En fait, j'arrive vraiment à être dans le moment et à plus penser à rien et à justement à me laisser cette pause mentale de tout le travail, de tout toutes les choses à faire, et peut-être d'être vraiment dans le moment, quoi. Et je pense
donc ça, c'est quelque chose de naturel chez toi.
Ouais, c'est assez naturel.
C'est cool.
Salut. C'est Agathe.
Bon, bah écoute, franchement, ça fait longtemps qu'on parle là.
Voilà, je savais combien de temps.
1 heure.
Ah oui, 1h21, putain.
1h21.
Aïe, aïe, aïe.
Non, mais je sais plus sur quoi je pouvais finir, mais par exemple,
T'as une question de fin
Non, j'ai pas. T'as vu, j'ai pas de question en fait. Mmh. En fait, je te l'avoue maintenant, je suis dans une période où j'essaie de faire des interviews sans les préparer pour voir si justement, parce qu'en fait, tu viens de parler d'être dans le moment.
Ouais.
Et quand je prépare et que j'ai des trucs, je suis moins dans le moment. Mmh. Je suis plus à me dire. Alors, attends, faut aussi qu'on parle de ça. Il faut aussi qu'on parle de ça. Et si je fais pas parler de ça, j'ai raté mon interview.
Ouais.
Et finalement, tu vois, là, c'est quand même assez naturel.
Mmh. Carrément.
Enfin, j'espère. Non, c'est un enfer.
Je sais pas.
Et en fait. Où est-ce que tu veux... est-ce que tu penses justement à une destination, à un endroit où tu vas avec ton dessin, ou est-ce que tu as un projet de faire un truc, ou est-ce que tu vois ça justement plus au jour le jour Ce qui m'a semblé lire encore une fois dans une de tes rares interviews, que tu te voyais monter un truc avec ta sœur à un moment.
Ouais, bah je pense que ça reste encore un peu flou, et je pense que là j'ai atteint un moment que je voulais en fait. Si à 10 ans... Je pensais à un truc et que je savais que j'allais avoir cette vie professionnelle, j'aurais été contente, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que les projets, ça serait peut-être faire des choses concrètes comme des livres, des BD, tu vois, quelque chose de, parce que ça, je viens de là, tu vois, je viens de la BD, tu vois.
Des objets, tu veux dire?
Ouais, quelque chose de, ouais, peut-être un peu matériel, un livre, tu vois, c'est quand même, ça fait rêver, quoi. Mmh. Tu vois.
J'ai vu que tu avais rencontré Riyad Satouf.
Ouais, carrément. Bah oui, là, c'est.
C'était une de tes grosses inspirations.
Ouais, ah oui, ça, c'est celui qui m'a le plus inspiré, je pense. C'est la personne qui m'a le plus inspiré.
Riyad Satouf, si tu nous écoutes, tu viens sur Nouvelle École.
Mais oui, Riyad Satouf, viens. Je t'invite personnellement.
Bah voilà. Merci beaucoup, Agathe.
Merci
d'être venue sur Nouvelle École. C'était trop cool. Ouais. En plus, on a fait cette interview au soleil, ce que les gens ne savent peut-être pas.
Ouais, il faut le préciser.
Voilà, on précise dans un parc.
Ouais.
Où est-ce que. Les auditeurs, où est-ce qu'on les envoie pour virtuellement,
virtuellement, directement sur mon site, mon Instagram. C'est là où je publie le plus.
Agathe Sorlet.
Agathe Sorlet.
Et il y a le lien vers ton shop dessus.
Ouais, c'est ça. Si okay. Vous voulez voler des petits posters.
Top. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast, c'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis, c'est donc @_nouvelle_école, _ c'est le tiret. Du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelle-école-podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.